On est de retour sur Choc FM dans sa Ligue du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi en ce samedi 2 décembre, premier samedi du mois de décembre. Émission enregistrée en première partie, on a parlé beaucoup de soccer comme on le fait d'habitude et on a dit un mot, on a fait un genre de gros format sur le Raptors 905, l'équipe de Mississauga à laquelle j'étais allé rendre visite il y a quelques jours. L'équipe est en crise, en 8 matchs, 8 défaites. On a essayé d'analyser un peu ce qui manque pour cette équipe-là, surtout dans le reportage qu'on avait fait. Je vous invite à aller l'écouter sur dans la rubrique chronique de chocfm.ca. Et on souhaite au Raptor 905 de retrouver tout de suite, assez vite, une santé, parce que pour l'instant, ce n'est pas la saison régulière. C'est ce qu'on appelle le Showcase Cup. Mais pour cette compétition-là, ils sont déjà éliminés. Allez, pour cette deuxième partie de Cédric du Sport en ce samedi 2 décembre. On va dire un mot et on le rappelle chaque semaine, on fait ce qu'on appelle le compte à rebours vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça va avoir lieu au moment où vous écoutez cette émission dans 237 jours. 237 jours, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 34 semaines moins un jour. Donc du 26 juillet 2024 au 11 août 2024, les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris. Donc, avec ouverture au jardin du Trocadéro et sur les quais de la Seine, avec la clôture au Stade de France. Il y aura 10 500 athlètes, avec probablement plusieurs dizaines d'athlètes canadiens. Et comme je vous le dis souvent, chaque semaine, lorsque j'en ai l'occasion, si vous connaissez des personnes qui essayent de se qualifier pour ces Jeux-là, allez les encourager parce que les Jeux Olympiques, la participation aux Jeux Olympiques, c'est l'aventure d'une vie. C'est des personnes qui s'entraînent pendant 4 ans pour pouvoir non seulement se qualifier, mais aussi décrocher une médaille. Il y a beaucoup de personnes, je vais dire incluant moi-même, donc plus de 90 personnes, des personnes vivant sur cette terre-là qui n'auront jamais l'occasion même d'assister, si ce n'est de participer aux Jeux Olympiques. Donc, si vous connaissez des personnes qui essayent de se qualifier, allez les soutenir. Si vous pouvez faire du fundraising, si vous pouvez les encourager moralement, de façon juste vocale, allez le faire parce que c'est très important. C'est vraiment l'aventure d'une vie. Allez, on va commencer cette deuxième partie de façon inhabituelle. On ne le fait pas souvent. On n'a pas pu le faire, disons, durant l'année parce que c'était comme un choix éditorial. Vous savez, Cédric du Sport, ben, c'est moi qui le présente, qui le produit et qui décide des choix des sujets qui sont traités. Je suis un très grand fan de Formule 1, mais cette année, disons au cours des 2 ou 3 dernières années, j'ai eu le sentiment que la Formule avait perdu de son lustre, de son prestige. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence et cela s'est confirmé. Cela s'est confirmé nettement, je vais vous dire, puisque le championnat est terminé, mais je n'en ai même pas parlé pendant toute l'année. Pourquoi? Je vais vous donner les résultats qui ont eu lieu. Le 5 mars, le Grand Prix de Bahreïn. Victoire de Max Verstappen de Red Bull. En Arabie Saoudite, le 19 mars, victoire de Sergio Pérez de Red Bull. En Australie, le 2 avril, victoire de Max Verstappen de Red Bull, encore une fois. Le Grand Prix de Chine qui aurait dû avoir lieu le 16 avril avait été annulé. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu le 30 avril a été gagné encore une fois par Sergio Pérez de Red Bull. Le Grand Prix de Miami aux États-Unis qui a eu lieu le 7 mai a été gagné par Max Verstappen, encore une fois de Red Bull. Le Grand Prix d'Italie, le circuit de Émilie-Romagne, qui devait avoir lieu le 21 mai, avait été annulé pour cause d'inondation. Si personne s'en rappelle, oui, ça avait été assez sérieux là-bas, donc il fallait préserver non seulement la sécurité du public, mais aussi des conducteurs et de toutes les équipes. Le Grand Prix de Monaco, très beau Grand Prix, sans doute le plus beau de toute la saison. Moi, j'ai jamais été participé, mais j'ai déjà visité Monaco et j'ai vu à quoi ressemble le circuit. Vraiment, c'est unique en son genre. Vous imaginez, par exemple, le centre-ville de Toronto, on va faire un Grand Prix de Formule 1 là-dedans. Ne rêvez pas, ça n'arrivera jamais, mais à Monaco, ils le font. Donc, le 28 mai, le Grand Prix de Monaco avait eu lieu. Encore une fois, victoire de Red Bull avec Max Verstappen. Le Grand Prix d'Espagne, je pense, c'est à Barcelone, je pense, si je me rappelle bien. Donc, le 4 juin, encore une fois, Max Verstappen. Le Grand Prix de Montréal qui a lieu ici pendant l'été, à 2 semaines du jour du Canada, donc le 18 juin, encore une fois, victoire de Max Verstappen. Donc, quatre victoires consécutives en fait, mais sur toute la saison, il en a eu, je pense, sept, ce qui est un record absolu. En Autriche, sur le Grand Prix de Spielberg, donc encore une fois, victoire de Max Verstappen, c'était le 2 juillet. Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, c'était le 9 juillet, victoire encore une fois de Max Verstappen de Red Bull. Le Grand Prix de Hongrie à Budapest, encore une fois, victoire de Max Verstappen. Le Grand Prix de Belgique à Spa, si je me rappelle bien, c'est comme ça que ça s'appelle ce Grand Prix-là. Victoire encore une fois de Max Verstappen. Le Grand Prix des Pays-Bas, que je ne connais pas bien, je vais l'avouer là. Victoire encore une fois de Max Verstappen. Le Grand Prix d'Italie, qui avait finalement été reporté au 3 septembre. Encore une fois, victoire de Max Verstappen. Et enfin, le 17e Grand Prix, celui de Singapour. Spectaculaire, je pense. Ce Grand Prix-là a eu lieu la nuit. C'était le 17 septembre. Victoire de Carlos Sainz de Ferrari. Donc, c'était la première fois en 17 Grands Prix qu'une autre écurie que Red Bull remportait la course. Grand Prix du Japon, lui aussi spectaculaire, le 24 septembre, victoire de Max Verstappen de Red Bull. Le Grand Prix du Qatar à Doha, le 8 octobre, victoire de Max Verstappen de Red Bull. Le Grand Prix des États-Unis, lui aussi très spectaculaire. C'était victoire de Max Verstappen de Red Bull. Le Grand Prix du Mexique, encore une fois à Mexico, le 29 octobre, victoire de Max Verstappen. Le Grand Prix de Sao Paulo avec une énorme foule au Brésil, donc avec souvent des grandes fans de Senna. Donc le lendemain de mon anniversaire, c'était le 5 novembre, victoire de Max Verstappen. Le Grand Prix de Las Vegas, donc le second Grand Prix des États-Unis, c'était le 19 novembre, donc victoire de Max Verstappen. Et Abu Dhabi, le 26 novembre, pour clôturer la saison de Formule 1, encore une fois, victoire de Max Verstappen. Donc, si je fais le décompte, je pense qu'il a gagné peut-être tous les grands prix, peut-être à l'exception de 3 ou 4 seulement. Écoutez, où est l'intérêt de regarder ces courses-là? C'est assez compliqué. Je vous donne comme preuve le classement final chez les pilotes. 19 victoires pour Max Verstappen sur 26 grands prix. Donc, j'étais pas loin du compte là. 561. 15 points, deuxième Sergio Pérez de Red Bull, troisième Lewis Hamilton, donc c'était comme sa résurgence là cette année, quatrième Fernando Alonso, cinquième Charles Leclerc, le Monégas, cinquième Norris, le Canadien Lance Stroll a fini dixième, onzième le Français Gasly et douzième le Français Ocon. Donc quel est l'intérêt de... et je vais vous donner, je pense, si je peux le retrouver, le classement des constructeurs. Constructeurs, ce sont tout simplement chaque écurie de Formule 1. Donc Red Bull avait fini premier avec 860 points, le deuxième et le troisième. Donc Mercedes 409 et le troisième Ferrari. Si on additionne les points de Ferrari et de Mercedes, c'est toujours plus bas que le total de points de Red Bull. C'est dire à quel point il n'y a pas de concurrence. La Formule 1 est devenue un circuit dans lequel il n'y a plus d'intérêt. C'est simple Max Verstappen qui fait son festival et puis les autres qui suivent derrière ou qui n'arrivent tout simplement pas à suivre. C'est pour ça que je pense que sur les années à venir, il va falloir que la Fédération internationale automobile se penche sérieusement sur la question de l'intérêt, de la compétitivité de la Formule. On ne peut pas avoir une ligue dans laquelle c'est juste les Red Bull qui dominent. Oui, parce qu'ils font du bon travail, ils ont sondé des bons ingénieurs, ils font le travail et tout, mais ça ne peut pas, ça ne peut pas. Pour l'intérêt de cette compétition-là, ça ne peut pas de rester comme ça indéfiniment. J'espère qu'ils vont se pencher sérieusement là-dessus. Donc, je voulais, c'est pour ça, pour finir, c'était pour débuter cette deuxième partie de Cédric du Sport en ce samedi 2 décembre, il fallait que je dise un mot sur la Formule 1 et ce que je pense de ce que cette compétition-là est devenue. En première partie, j'avais conclu sur la football, comme ça justement, cette semaine, il y a eu du football dans la NFL, puisque c'était, disons pas cette semaine, mais la semaine dernière, c'était le week-end de ce qu'on appelle la Thanksgiving, donc l'action de grâce, mais version américaine, l'original, on va dire, avec plusieurs matchs comme ça en milieu de semaine, et ça avait été assez spectaculaire. Bon, quand même, sauf le match du lundi qui avait opposé Chicago aux Vikings, c'était 12 à 10, 22 points pour tout un match, c'était vraiment très pauvre. Le match du dimanche, par contre, entre les Ravens, donc Baltimore et les Chargers, c'était 20 à 10. Là, il y avait un petit peu plus de spectacle. Le match qui avait marqué tout le monde, c'était le match entre Buffalo, les Bills et les Eagles de Philadelphie. Sur ce match-là, Buffalo aurait pu gagner. Il restait, je pense, moins d'une minute. Et puis, Philadelphie est revenue au score et s'est imposée en prolongation. Les Bills, je commence à vraiment, vraiment, vraiment être inquiet pour eux parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aligner les performances. On va voir ce que ça donne, mais 6 victoires, 5 défaites, c'est assez inhabituel pour les Bills. Allez, on va continuer dans cette rubrique sur la NFL avec le match du jeudi 30 novembre. C'est Seattle qui avait perdu. Non, qui avait. Oui, qui avait perdu face aux Dallas Cowboys. Surprise, parce que Cowboys, c'est l'une des premières fois qui s'impose comme ça de façon nette. 41 à 35 face à une équipe quand même assez compétitive. Le dimanche, je vous le dis chaque semaine, le dimanche, la semaine, c'est pour Dieu. Le dimanche, c'est pour le football. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Donc, le dimanche 3 décembre, plusieurs matchs. Indianapolis face à Tennessee. Atlanta face à New York, les Jets. Détroit face aux Saints, mais Saints, j'espère qu'ils vont survivre là parce que les Lions sont en forme cette année, l'équipe de Détroit. Denver, les Broncos qui vont affronter les Texans. Les Chargers qui vont affronter les Patriots. Les Cardinals qui vont affronter les Steelers. Et les Miami, les Dolphins qui vont affronter les Commanders. Tout ça, ce sont les matchs de 13h. Les matchs de 16h, c'est Carolina qui va affronter Tampa, les Buccaneers. San Francisco, les 49ers qui vont affronter Philadelphia, les Eagles. Cleveland, les Browns, on a appris que leur cas arrière s'est blessé pour le reste de la saison, donc terminé, sans doute pas de playoff pour les Browns, donc ils vont affronter les Rams. Alors que pour le match du dimanche soir, la grosse affiche, c'est Kansas City, les Chiefs du cas arrière Patrick Mahomes qui va affronter les Green Bay, les Packers. Et les matchs du lundi, le 4 décembre, ce sera Cincinnati, les Bengals qui va affronter les Jaguars de Jacksonville. Je ne vais pas donner les classements, c'est pas, ben, ouais, ce serait beaucoup trop long alors qu'il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Juste signaler, comme ça, juste par rapport au classement, que juste là, les meilleures équipes en saison régulière pour l'instant, c'est Miami, 8 victoires, 3 défaites seulement. Les Chiefs aussi, 8 victoires, 3 défaites. Les Ravens, 9 victoires, 3 défaites. Jacksonville et Jaguars, 8 victoires, 3 défaites. Ça, c'est tout ça dans la American Football Conference. Alors que dans la National Football Conference, c'est les Eagles, 10 victoires et seulement une défaite jusque-là pour l'équipe de Philadelphie. Les Cowboys aussi suivent bien derrière, 9 victoires, 3 défaites. Également, San Francisco, les 49ers, 8 victoires, 3 défaites. Detroit, les Lions, 8 victoires, 3 défaites. Et enfin, dans la division NFC South, toutes des équipes avec des résultats, des bilans négatifs. Donc, Atlanta, 5 victoires, 6 défaites. Les Saints, 5 victoires, 6 défaites. Les Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites. Et enfin, les Panthers, seulement une victoire en 11 matchs. Pour finir sur la page football. Mais football nord-américain, rappelez que j'ai eu une interview vraiment très sympathique avec un ancien collègue de Choc FM qui s'appelle Willy Boivin. On a parlé de la victoire il y a maintenant presque 2 semaines des Alouettes de Montréal face à Winnipeg, les Blue Bombers. Et pour confirmer que le Québec est une terre de foot, c'est l'équipe universitaire des Carabins de l'Université de Montréal qui se sont imposés en finale du championnat universitaire qu'on appelle la Coupe Vanier. Donc, décidément, le Québec, c'est la terre du football au Canada. Allez, il nous reste à peu près quoi, une dizaine de minutes pour finir sur les deux dernières ligues, à savoir la Ligue nationale de hockey et la NBA. Sur la Ligue nationale de hockey, les classements, les Bruins sont toujours en tête, suivis par les Panthers et les Maple Leafs. Les Maple Leafs, c'est coup-ci, coup-ça, certaines victoires, certaines défaites. Il est probable que ce samedi 2 décembre, j'aille voir le match des Toronto Maple Leafs. Si je peux le faire, je vous ferai, vous aurez sans doute le reportage qui sera disponible ici sur chocfm.ca. Donc, qui suit derrière, c'est les Red Wings qui ont enregistré l'arrivée de Patrick Kane, ancien grand joueur de Chicago. Chicago aussi, il y a eu un genre de crise, mélodrame avec le fait qu'un joueur a été tout simplement licencié. Il s'appelle Corey Perry, ancien grand joueur qui est passé par pas mal d'équipes, qui a la particularité d'avoir joué 3 années de suite la finale de la Coupe Stanley, à savoir à Dallas. Il avait perdu à Montréal, il avait perdu et à Tampa, il avait également perdu. C'est assez historique là. Perdre 3 finales de suite avec 3 équipes différentes. Je pense que dans l'histoire du hockey professionnel nord-américain, c'est le premier et le seul à l'avoir fait. Donc, Corey Perry qui se retrouve sans club. On ne sait pas les raisons pour lesquelles il a été licencié par son club. C'est très, très rare dans le sport professionnel que un joueur se fasse licencier parce que c'est des joueurs, c'est des gens qui ont souvent des contrats garantis ou en partie. Donc, même s'il se fait licencier, le club doit le payer quand même. Donc, en le licenciant, c'est comme le club s'engage à s'en séparer, mais tout en le payant quand même, ce qui est assez inhabituel. Allez, pour conclure sur la division Atlantique, ce sont Buffalo, Montréal et les Sénateurs d'Ottawa qui sont inclus du classement. Dans la division métropolitaine, en tête, ce sont les Rangers de New York, suivis par les Hurricanes et les Washington Capitals, qui ont fait une belle remontée en queue de classement. Ce sont les Devils de New Jersey, les Penguins de Pittsburgh et les Blue Jackets. Un mot sur les Penguins avec leur gardien Tristan Jarry, qui a réussi une performance, c'est très rare, mais c'est un gardien de hockey qui a réussi à scorer en étant depuis son propre goal. Je vous allez aller voir ça sur YouTube ou sur le site de la NHL, c'est très spectaculaire. Dans la division centrale, c'est l'Avalanche qui est en tête, suivi par Dallas, les Stars et les Winnipeg, les Jets. En queue de classement, c'est Nashville, les Predators, Minnesota, le Wild et les Chicago Blackhawks. Je vous ai dit que les Blackhawks, eux, il y a eu le licenciement du joueur Corey Perry. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez faire quelques recherches là-dessus sur les sites anglophones ou francophones qui concernent le hockey. Dans la division Pacifique, en tête, ce sont les Golden Knights de Vegas, qui, je le rappelle, sont les champions en titre, suivis par Vancouver, les Canucks, qui font un bel, beau début de saison, là. Ils ont d'ailleurs fait un échange, un transfert de joueurs, là, pendant la semaine, qui a un peu surpris tout le monde. Los Angeles, les Kings, aussi, qui sont troisièmes en queue de classement, ce sont toujours Edmonton, les Oilers, malgré le changement de coach, Anaheim, les Ducks, et San Jose, les Sharks. Et je rappelle que si c'est possible ce samedi, je serai présent au Scotiabank Arena pour rendre visite au Toronto Maple Leaf. On va conclure sur cette émission de Cédric du Sport avec la NBA. La NBA, ça, il n'y a pas de mot en français pour dire la NBA, mais tout simplement donner les classements dans chaque conférence. Dans la conférence S, ce sont les Celtics qui sont en tête, 14 victoires, 4 défaites, suivis par le Magic d'Orlando. Grosse surprise là, Magic d'Orlando. Ça faisait plusieurs années, je pense, depuis l'année où les Raptors avaient été champions, donc 2019, que les Magic n'avaient pas été en position d'aller en playoff. Donc pour l'instant, 13 victoires, seulement 5 défaites, avec aux commandes l'ancien rookie Paolo Banchero, qui fait une belle beau début de saison là. Les Bucks, la mayonnaise commence à prendre depuis l'arrivée de Damian Lillard, donc 13 victoires, 6 défaites, suivi par Philly. Philly qui était en tête pendant une longue période et puis qui a enchaîné quelques défaites, mais toujours est-il que avec le duo Embiid des Maxi, ça se passe assez bien. Les Knicks en 5e, Miami est 6e, Indiana Pacers est 7e, 8e les Cavaliers de Cleveland, 9e Atlanta les Hawks, 10e les Nets, 11e les Toronto Raptors, les Raptors qui ont du mal à enchaîner. Jusque-là, je pense, depuis le début de la saison, ils n'ont pas réussi à avoir trois victoires consécutives. Il y a des matchs où ils réussissent quelque chose d'intéressant, comme par exemple une victoire à Dallas, sur le terrain de Dallas, et puis une défaite à domicile, comme ça, nette, face aux Milwaukee Bucks, sans la présence de Giannis Antetokounmpo. C'est vraiment décevant. Je pense que si les Warriors géraient mieux leur choix tactique et gérer mieux les fins de match, ils seraient plutôt à quelque chose comme, disons, 11 victoires, 8 défaites, quelque chose comme ça, quoi. Là, pour l'instant, ils sont en dessous de la barre des 50%. On espère qu'ils vont pouvoir se rattraper assez vite. 12e, ce sont Charlotte, les Hornets. 13e, les Bulls. 14e, les Wizards de Washington. Ou l'ancien joueur des Golden State Warriors, Jordan Poole. Écoutez, si vous voulez la définition d'un joueur qui fait n'importe quoi, regardez le jeu de Jordan Poole. Il fait vraiment n'importe quoi. Mais vraiment. 15e et probablement bon dernier de la NBA en ce moment, c'est les Detroit, les Pistons, avec seulement 2 victoires en 17 matchs. Dans ce club-là, ils avaient fait venir le coach Monty Williams, ancien finaliste avec les Phoenix, les Suns, mais ça prend pas, ça prend pas. Monty Williams, qui est le deuxième coach le mieux payé en NBA, mais il n'y arrive pas tout simplement. Il y a des joueurs qui font des choses intéressantes, comme le rookie ailier fort Thompson. Il y a le français Killian Hayes qui essaye de lever qui est sortir la tête de l'eau, mais pour le reste de l'équipe, ça, il y a vraiment beaucoup de mal. Moi, j'avais un moment planifié d'aller voir les Pistons, mais dans ces conditions-là, l'équipe est tellement, c'est tellement mauvais tout simplement, quoi. Faut pas trop mâcher les mots, c'est difficile d'avoir un tel spectacle, au tel point que Lors de l'un de leurs derniers matchs, le club, c'est tous les fans se sont tout simplement mis à huer l'équipe. Vous voyez à tel point ils sont déçus des performances de leur équipe qui se mettent à les huer. Ça, c'est quand on arrive à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué quoi de s'en sortir. Voilà. Donc ça, c'était pour la conférence Est. Dans la conférence Ouest, Minnesota, grosse surprise là. Ils font un début de saison impressionnant. Seulement 4 défaites en 18 matchs devant les Nuggets et Minnesota. C'est vraiment, je sais pas s'ils ont trouvé la recette, mais toujours est-il qu'avec les grosses performances défensive du pivot français Rudy Gobert, ça tient bien derrière et qu'en attaque avec le petit Anthony Edwards, ça tient fort. Ça tient fort. Déjà sur 10 matchs à domicile, ils en ont perdu seulement un seul. S'ils arrivent à maintenir ça, c'est prometteur. Donc, Nuggets qui sont derrière, l'équipe championne en titre de Denver, les Thunder aussi qui alignent des belles performances, notamment une victoire à l'extérieur sur le terrain des Rockets, pardon, des Rockets, des Lakers de 23 points, avec à leur tête le Canadien Shai Gilgeous-Alexander. C'est vraiment excellent ce qu'ils sont en train de faire, les Thunder. Maintenant, un mot sur les Thunder. Il y a une controverse en ce moment, on n'en parle pas trop dans la presse. Il y a un joueur qui s'appelle Josh Giddey, qui a 21 ans, qui est d'origine australienne, qui soi-disant aurait eu des relations inappropriées avec une mineure. Pour des raisons qu'on ignore, la NBA ne veut pas en parler. C'est comme personne ne veut révéler quoi que ce soit. C'est assez surprenant de voir ça, parce que lorsqu'il s'agit de scandales qui impliquent des joueurs plus âgés et des joueurs, disons, confirmés de la ligue, ou certains coachs, comme on se rappelle l'année dernière, le coach de Boston, qui aurait eu soi-disant une liaison avec une membre du staff de Boston. Mais il y avait eu tout un scandale, ils en avaient parlé dans tous les grands médias. Mais là, s'agissant d'un joueur jeune, australien, d'une équipe, petite équipe, le Oklahoma, c'est quasiment silence radio. On va voir quelle va être la suite des développements sur cette affaire-là. Mais toujours est-il que, et c'est vraiment surprenant, ce joueur-là est soupçonné des détournements de mineurs, mais il a toujours le droit de jouer. Oklahoma le laisse toujours jouer, au tel point que même son propre public s'est mis à le huer. En tout cas, on verra ce que ça va donner pour les semaines à venir. Donc, je disais, premier, Minnesota, deuxième, Denver, troisième, OKC, donc Oklahoma City, quatrième, Dallas, cinquième, les Suns, qui ont perdu un match pendant la semaine ici à Toronto, sixième, Sacramento, septième, les Lakers, huitième, New Orleans et les Pelicans. 9e les Rockets qui avaient bien commencé la saison mais apparemment ils sont en train de revenir dans le ventre mou du classement. 10e c'est les Warriors. Les Warriors ils ont vraiment du mal. Comment il s'appelle le joueur Thompson, Klay Thompson qui a vraiment vraiment beaucoup de mal à trouver un niveau de jeu décent. S'il n'y arrive pas là, il est en sa dernière année de contrat. Je pense pas que les Warriors vont le garder. Les Clippers aussi, ils alignent les 11e. Depuis l'arrivée de Harden, ils ont perdu plus de matchs qu'ils en ont gagné. Est-ce qu'ils sont pas déjà en train de regretter la décision de le faire venir? 12e, c'est les Trailblazers de Portland. 13e, ce sont les Jazz de Utah. 14e, les Grizzlies. Et 15e, les Spurs de Victor Wembanyama. Un mot sur les Spurs. Ils sont, depuis la fois où on avait fait le live, c'était au début du mois de novembre, ils sont sur tout simplement 13 défaites consécutives. Ça prend pas. On ne sait pas si c'est Pop, le coach Popovich, qui a perdu la touche, mais il n'y arrive tout simplement pas. Allez, pour finir sur cette émission des Soldes Exit Sport, il nous reste à peu près une minute. On va donner les classements individuels pour les stats. Meilleur marqueur pour l'instant dans le top 3, c'est Joel Embiid, suivi par Kevin Durant et Luka Doncic. Parmi les défenseurs, meilleur rebondeur, c'est Nikola Jokic, suivi par Anthony Davis et Domantas Sabonis. Rudy Gobert reste juste derrière, troisième ex aequo. Parmi les passeurs, c'est Tyrese Haliburton qui est en tête, suivi par Trae Young et Nikola Jokic qui est dans le top 3, dans trois catégories. Ah, faut croire qu'il va encore faire une saison de MVP. Parmi les meilleurs contreurs, là, Victor Wembanyama avec quasiment 3 contres par match, suivi par Brook Lopez et Anthony Davis. Parmi les meilleurs scoreurs à 3 points, c'est Steph Curry, suivi par Tyrese Haliburton et Luka Doncic. Et enfin, parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui est premier, suivi par Donovan Mitchell et Marcus Smart. C'est sur ces mots de la NBA qu'on va conclure cette émission de Cédric du Sport. Ça a été un plaisir d'être avec vous en ce premier samedi de décembre 2023. Si j'ai la possibilité, j'irai voir les Toronto Maple Leafs et on vous fera un reportage complet sur ce match-là. C'était un plaisir d'être avec vous, comme d'habitude, tous les samedis de 11h à midi sur le 105.1 à la radio 100% Toronto, 100% francophone et sur le chocfm.ca. Allez écouter les chroniques que nous postons, aussi bien concernant les Raptors avec le reporter Patrick et que les autres reportages que moi je vais vous. Je vais vous délivrer ici sur le chocfm.ca et d'autres personnes, personnalités du Choc FM. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Restez au chaud car l'hiver est véritablement en train d'arriver ici dans la région du Grand Toronto. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. C'était Cédric Ingone sur Cédric du Sport.